Bonjour Alain.
Une université particulière aujourd'hui.
À Lazare, où va se tenir à la fin de cette semaine une grande conférence internationale sur le thème « Religion et paix ».
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Au Caire, la noble à Lazare.
Une rencontre inédite au Vatican et un symbole. Le pape François reçoit le grand imam d'Al-Azhar, considéré comme la plus haute autorité de l'islam sunnite. C'est une rencontre importante dans le cadre du dialogue entre l'Église catholique et l'islam. Les deux institutions étaient en froid depuis 10 ans, depuis des propos controversés de Benoît XVI, semblant associer islam et violence.
À la visite du chef de l'université Al-Azhar au Vatican l'an passé, va répondre ce vendredi le déplacement du pape à Al-Azhar, le premier depuis le passage de Jean-Paul II en l'an 2000. Les attentats contre la cathédrale copte d'Alexandrie n'ont pas suffi à annuler ce voyage important, qui se fait d'ailleurs aussi à l'invitation du maréchal Sissi, des évêques des micro-églises catholiques et du pape copte. François fait venir de son côté le patriarche orthodoxe de Constantinople. Cette rencontre au sommet, qui permettra davantage d'images que d'approfondissements peut-être, est conçue pour améliorer aussi la position centrale d'Al-Azhar comme lieu de référence et de consultation pour toute la communauté sunnite. En amenant dans la noble enceinte des responsables venus du monde entier, la rencontre risque aussi de donner du grain à moudre aux nombreuses critiques contre Al-Azhar. Son chair se retrouve en effet dans une situation acrobatique, contestée de l'intérieur par les querelles d'école et bordée de très près à l'extérieur par le maréchal Sissi, chef d'un État liberticide, qui lui demande pourtant un renouveau conscient et responsable. Le cher Al-Tayeb peut difficilement indiquer clairement la direction qu'il s'est peut-être fixée. Il marche sur un fil entre ceux qu'il nomme les extrémistes et ceux qu'il appelle les laxistes, et son premier souci est peut-être de ne pas trébucher.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Dominique Avon, bonjour.
Bonjour.
Qui va parler sur un ton égal, je le sens, de sujets extrêmement sensibles. Vous dites que vous n'êtes pas très nombreux, les historiens de l'islam contemporain en France.
Oui, il y a beaucoup de sociologues ou de politologues qui s'intéressent à la religion musulmane, mais les contemporanéistes, historiens, spécialistes de l'islam sont relativement peu nombreux.
Alors vous êtes professeur à l'université du Maine, et c'est aussi au Mans que on trouve l'Institut du pluralisme religieux et de l'athéisme que vous co-animez et qui a des activités à la fois au niveau de la recherche et puis au niveau de la diffusion de la connaissance. Alors on nous dit toujours, Milan, Al-Azhar est une université millénaire. Je vous propose d'évoquer sa fondation sous les Fatimides. Les Fatimides, c'est une dynastie chiite.
Voilà, le paradoxe, c'est que l'un des principaux centres de l'enseignement sunnite à l'heure actuelle a été fondé par une dynastie chiite. Ce n'est pas le moindre des paradoxes.
Je ne sais pas si c'est dit dans ce dessin animé dont voici un extrait qui est diffusé sur une chaîne religieuse en Égypte. Vous pardonnerez ma prononciation, Al-Nahr Nour.
Voici les plans, Monseigneur.
Les plans de construction d'Al-Azhar ?
Oui, Monseigneur, et j'espère qu'ils vous plairont. La mosquée sera située au sud-est de la ville, comme vous l'aviez décidé, Monseigneur.
Quelles seront ses dimensions ?
Elle fera 280 pieds de longueur et 227 pieds de largeur.
Et cette surface vide ?
C'est le centre de la mosquée. Il sera cerné d'est en ouest par deux galeries élevées par des piliers.
On passait respectueusement dans la grande mosquée Al-Azhar, au pied des colonnes autour desquelles on pouvait voir les étudiants azaristes. Le professeur était assis sur un coussin au pied d'une colonne, accroupi devant lui en demi-cercle. Il y avait les étudiants qui écoutaient religieusement le discours que prononçait le professeur. Et il s'interrompait à certains moments pour reprendre tous en chœur des versets du Coran ou des hadiths, c'est-à-dire les enseignements traditionnellement attribués aux prophètes, et il les commentait. On passait discrètement auprès d'eux sans interrompre ce cours, pas plus que l'on aurait eu l'idée d'interrompre un cours de Bergson en Sorbonne.
Souvenir presque intemporel de Gabriel Dardot, qui est un des plus grands journalistes qui ait été, qui parlait un français magnifique et aussi fort bien l'arabe. Alors c'est qui ces maîtres, ces professeurs dans ces temps anciens ?
Donc ce sont des savants, on dit ulama, ce sont des savants qui sont d'abord des très bons connaisseurs de la langue arabe coranique, pas simplement de ce dialectal égyptien qui s'est transformé au cours du temps, mais qui maîtrise parfaitement cette langue qui a été fixée au 7e, 8e, entre le 7e et le 9e siècle. Ce sont également des personnes qui connaissent le Coran par cœur, ce sont les hafez, ils connaissent le Coran par cœur, qui connaissent les hadiths, les traditions des faits et dits attribués à Mohammed, à ses compagnons, aux suiveurs de ses compagnons. Ils connaissent également ce que l'on appelle Asbab al-Nuzul, les circonstances de la révélation, et ils transmettent ce savoir des circonstances de la révélation. Ils sont enfin des maîtres en matière de droit musulman, qui est la science reine à El-Azhar, la science du fiqh. Et en Égypte, après le passage des Fatimides, c'est le droit hanafite qui a été prédominant.
Mais alors vous allez dire que je parle comme un sociologue, mais ils sont quand même liés, les savants d'Al-Azhar, au pouvoir politique, peu ou prou, selon les époques. C'est une manière d'aristocratie.
Alors, ils sont liés au pouvoir politique, c'est incontestable. Ils sont subordonnés en partie à ce pouvoir politique, puisque quand Saladin renverse la dynastie Fatimide, il passe au sunnisme, relativement rapidement d'ailleurs, en grande partie parce que la population n'était pas devenue chiite très majoritairement. Donc c'est relativement facile, même si ça se fait parfois par des coups de force, c'est relativement facile de revenir au sunnisme pour ces savants. Et ils exercent une autorité magistérielle, c'est eux qui sont les transmetteurs du savoir religieux et du droit religieux.
Savant, magistère, j'ai bien entendu, pas vraiment une aristocratie comparable à la nôtre. À partir du 19e siècle, on va voir, sous l'influence française et britannique, se constituer des structures éducatives différentes, concurrentes d'Al-Azhar.
Oui, alors l'expédition de Bonaparte en 1798, qui a été très très bien restituée par Henri Laurence, dans son histoire et dans son contexte, a joué le rôle d'un électrochoc. Et une génération plus tard, il y a la première délégation d'étudiants d'Al-Azhar, emmenés par un imam, Rifat al-Tahtawi, qui vient en France, oui. Qui passe plusieurs années et qui se dit « Mais comment se fait-il que cette société loi soit si avancée alors que nous possédons la révélation dernière et que nous avons eu une grande civilisation ? Il faut donc aller chercher ce qui est bon là et l'introduire chez nous. »
Avec école normale pour former les instituteurs et puis université à l'européenne. Mais alors, coup de barre ensuite, quand la monarchie tombe, que les Européens sont congédiés par Nasser et les Juifs et les Syro-Libanais et qu'une république s'installe qui va prendre en main Al-Azhar, la nationaliser, essayer de lui expliquer que vraiment le modèle européen, c'est celui qu'il faut combattre.
Alors, il y a deux choses. D'abord, la question de l'autonomie d'Al-Azhar. Al-Azhar bénéficiait d'une autonomie, et ses savants bénéficiaient d'une autonomie parce qu'il y avait des ressources propres. Ce que fait Nasser, c'est qu'il enlève ses ressources propres à Al-Azhar, il fonctionnarise les professeurs, les enseignants d'Al-Azhar. Donc sa mainmise est beaucoup plus forte là-dessus. Et d'autre part, il introduit beaucoup plus de sciences profanes il introduit de vraies facultés de sciences profanes, alors que au début du XXe siècle, notamment sous l'influence de Mohamed Abdou, l'un des principaux chairs du tournant du siècle, il n'y avait eu que quelques disciplines comme la géographie qui avaient été introduites.
Mais alors, comment fonctionnent ces facultés démultipliées qui enseignent des disciplines que vous dites profanes ? Une interview d'un doyen par France Culture, Thierry Garcin, un doyen d'Al-Azhar.
Il y a actuellement 13 facultés dans toutes les branches. Vous avez la faculté de langue arabe, la faculté de théologie, la faculté de législation islamique. Il y a actuellement des facultés modernes comme la faculté d'agriculture, la faculté polytechnique, la faculté des sciences, la faculté de chimie, la faculté de médecine. Donc Al-Azhar actuellement devient une université moderne. Mais sans perdre en même temps le caractère religieux d'investir à Al-Azhar.
Alors précisément, monsieur le doyen, cette double mission à la fois de s'ouvrir vers le monde, et ça a été tenté donc en gros depuis une vingtaine d'années, et d'autre part de conserver, de propager tout l'aspect religieux proprement musulman, est-ce que ça a été difficile à concilier ?
Oui, au commencement, la mission n'était pas facile. Et pour concilier et conserver le caractère ancien de la mosquée Al-Azhar et le caractère moderne de l'université Al-Azhar, les matières religieuses sont enseignées dans toutes les facultés de l'université Al-Azhar. Aucun étudiant ne peut être admis sans passer l'année propédeutique. Donc, dans cette année, il étudie simplement et uniquement les matières religieuses.
Donc, il y a une propédeutique, un tronc commun, uniquement les matières religieuses. Enfin, je vais peut-être vous poser une question un peu alambiquée, mais ça veut dire que tout ingénieur ou pharmacien issu d'Al-Azhar peut aussi être un prédicateur en puissance.
Et alors, de toute façon, un imam ne peut, n'importe quel musulman peut devenir imam s'il est reconnu comme tel par un groupe avec un certain nombre de réserves suivant les pays. Mais ce qui est important ici, c'est de souligner ce tournant de la réforme de 1961 qui fait d'Al-Azhar comme une université parallèle, avec en plus cette dimension religieuse. Et l'autre élément important, c'est que cela ouvre l'université d'Al-Azhar au monde entier et cela permet à cette université d'accueillir des étudiants de confession musulmane, notamment d'Afrique subsaharienne ou d'Indonésie. Ils sont très nombreux à venir, surtout à partir des années 80-90. Et donc cela donne un second souffle, tout en contraignant l'Institut vis-à-vis du pouvoir politique.
Alors Al-Azhar s'est transformé beaucoup ces dernières années, on va y venir. Elle a même le projet d'une chaîne de télévision qui va voir le jour. Ici, nous sommes toujours sur notre chaîne de télévision égyptienne de type religieux, qui appartient au groupe Al-Nahar. Une chanson à la gloire d'Al-Azhar. Depuis mille ans, c'est facile à traduire parce que c'est toujours la même chose. Depuis mille ans, les oulémas s'y précipite, sa chair a accueilli ceux qui transmettent le savoir, les théologiens, les prêcheurs, parce qu'Al-Azhar est un endroit de paix.
كم هابه وأجله العلماء ما رد يوما قاصدا أو عابدا وإليه من كل المشارب جاءوا يا منبرا للعلم جاء معلما
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Al-Azhar a dévoilé ce mardi son nouveau visage après de longs travaux de remise en état.
Les travaux consistaient notamment à renforcer les bases de la mosquée. Le parterre de la mosquée, fait de marbre et mesurant près d'un hectare, a été traité contre l'humidité et les infiltrations d'eau. En effet, la montée de la nappe phréatique due aux fuites d'eau d'égout des immeubles qui entourent la mosquée sont une des causes de sa détérioration. L'autre cause est le trafic intense et la pollution qui, depuis des dizaines d'années, accélère l'érosion des façades.
Nous sommes deux jours avant l'ouverture d'une conférence internationale religion et paix à Al-Azhar au Caire, conférence où se rend le pape François, le patriarche de Constantinople, et où vont se retrouver avec le chef d'Al-Azhar, le patriarche copte et les évêques des micro-églises chrétiennes d'Égypte. Dominique Avon, si on poursuit notre parcours chronologique dans l'histoire de cette noble université. Un grand changement aussi est à noter à partir de la fin des années 1960, qui commence avec l'échec de Nasser face à Israël, il y a 50 ans précisément d'ailleurs.
Oui, en fait le changement intervient dès la fin des années 50, lorsque des savants d'Al-Azhar se sentent suffisamment forts parce qu'ils ont été formés dans des universités occidentales, c'est le cas du Cheikh El-Bahi qui a été formé dans l'université allemande, pour repousser le savoir issu de l'Europe. Mais il le repousse avec les outils issus du savoir européen. Et il dit, tous les intellectuels libéraux qui, comme Taha Hussein, dont nous n'avons pas parlé, mais qui est central, qui a été ministre de l'éducation, ce sont des collaborateurs des anciens colonisateurs, et ce savoir-là, il faut le rejeter. Et donc ce Cheikh El-Bahi, puis d'autres derrière lui, notamment un grand imam d'Al-Azhar dans les années 70, disent, nous devons ré-islamiser et le savoir et le droit.
Alors ce bon ordre va être d'autant plus fort que l'Égypte est défaite face à Israël et que l'invasion intellectuelle occidentale est chargée de davantage de péchés encore.
Exactement. Vous avez parfaitement raison. Ce sentiment-là est renforcé par l'échec politique de Nasser et l'échec militaire de Nasser en 67.
Il y a aussi le rapprochement égypto-saoudien consécutif.
Alors, Nasser et l'Arabie saoudite, c'était un désaccord profond et ce désaccord s'est traduit par une guerre au Yémen par alliés interposés ou directement pour les Égyptiens, mais Sadat s'est rapproché en partie des Saoudiens, et oui, il y a eu un soutien et puis des coopérations qui ont été définies entre El-Azhar et des universités saoudiennes qui ont bénéficié des pétrodollars, surtout à partir des années 70. Et cette coopération s'est traduite jusqu'en 2011-2012 avec des accords concrets.
Mais ça veut dire que dans ces années-là, qu'on évoque toujours les années 70, le wahhabisme commence à glisser de la marge au centre.
Exactement, mais je pense qu'il ne faut pas focaliser sur le wahhabisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un héritage médiéval qui est considéré par les deux partenaires comme intouchable, qu'il soit Hanbalite, qu'il soit Shafi'ite, qu'il soit Hanafite pour Al-Azhar, qu'il soit Malikite. Et donc c'est cette matrice-là qu'il ne faut pas toucher. Et les uns et les autres s'accordent pour dire on ne touche pas à ce savoir-là. Mais est hors du temps.
Il y a une autre branche d'interprétation possible. Restons aux années 70, c'est le chiisme. Est-ce qu'à un moment, il a pu être considéré comme une cinquième colonne?
Alors, pas comme une cinquième colonne.
Un cinquième pilier, une cinquième école.
Au début des années 60, il y a eu le projet d'instauration d'une cinquième école comme élément enseigné à El-Azhar. Et le renversement s'est opéré avec la victoire de Khomeini en Iran et la proclamation d'une république islamique proprement chiite.
Mais l'année d'avant, en 78, il y a un projet qu'on a complètement oublié qui vous intéresse beaucoup.
Oui, c'est un projet de constitution islamique universelle rédigé par un comité de savants d'El-Azhar qui était marqué par cette idée qu'il fallait s'opposer et à la conception libérale de l'État et à la conception marxiste de l'État. Donc c'était un contre-projet global à ce qui venait de l'extérieur.
Mais voilà, Téhéran et Rome, au sens comme, je ne sais pas comment on dit, avec un cul, comprenons-nous bien, ont brisé cette idée d'unité. Où on en est maintenant au point de vue du nombre des étudiants, de leurs origines géographiques?
Alors, il y a plusieurs centaines de milliers, près de 400 000 étudiants aujourd'hui à El-Azhar, mais dans toutes les facultés, hein, donc pas simplement ceux qui sont spécialisés dans le droit religieux musulman ou dans les sciences religieuses musulmanes, avec plus d'une centaine de nationalités, mais on remarque qu'il n'y a pas d'Iraniens. Et donc ça, c'est un trait caractéristique de la situation contemporaine et de la tension. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y aura des représentants chiites iraniens à la conférence dans 2 jours.
Parlons de l'immédiat, du très contemporain. Un nouveau cher a été nommé, désigné en 2010, Al-Tayyem.
Alors, il était nommé par le président de la République. Ce statut a changé. Et ça pose problème parce qu'il est nommé et Moubarak, le président de la République d'alors, est contraint à démissionner et donc il est chassé du pouvoir. Mais le cher Al-Tayyem est resté en poste.
Mais en naviguant à vue. Alors, en donnant des places aux libéraux après la révolution arabe, essayant d'ouvrir avec appréhension aux frères musulmans ou aux salafistes quand il le fallait.
Il s'est situé, il a essayé de créer une sorte de maison de l'Égypte où il a dit « Vous êtes tous les bienvenus, des libéraux jusqu'aux salafistes et aux frères musulmans ». Mais un des proches conseillers du cher Tayyeb, Mahmoud Azab, m'a fait cette confidence lors d'une conférence à Florence en 2011, printemps 2011, il m'a dit « Akhafu minhum », je suis effrayé par eux. Il parlait des salafistes et des frères musulmans. On avait donc une forte tension.
Mais on avait combien de professeurs et d'assistants? Parce que c'est très important, les assistants, au moment de Morsi, du président frère musulman.
Alors, il est difficile de déterminer la part des frères musulmans qui sont au sein de l'institution. Il y en a toujours aujourd'hui, mais on n'a pas la possibilité de les quantifier. On sait que, par exemple, que telle personne au sein de l'Institut de recherche islamique qui s'occupe de la da'wa, donc de la prédication islamique, est très fortement imprégnée de la pensée des frères musulmans. Mais le secrétaire général de ce même institut est libéral. Donc on a un rapport de force interne qui crée de la tension forte au sein.
Le maréchal Sissi, auquel s'est rallié le cher qui avait été nommé au temps de Moubarak, fait pression, j'imagine, pour que il y ait moins d'enseignants liés au courant auquel il est opposé, pour chasser aussi les étudiants frères musulmans. Il appelle, c'est drôle, ce chef de l'État liberticide appelle à un renouveau conscient et responsable et à une réouverture de l'interprétation, ça va jusque-là?
Oui, il parle même de rénovation du discours religieux. D'ailleurs, beaucoup de personnes, y compris des savants d'El-Azhar et le cheikh Ahmed Tayeb lui-même, parlent de rénovation du discours religieux. Mais on a du mal à saisir ce que on entend par là. Il faut modifier les manuels, le contenu de certains manuels, mais de manière concrète. Lorsqu'il y a eu le salon du livre au Caire, qui est le plus grand salon du livre arabe dans le monde arabe, le stand tenu par El-Azhar, montrait qu'il y avait encore beaucoup de livres avec un discours extrêmement traditionnel, takfirisant, donc excommuniant beaucoup de personnes et vantant une inégalité, par exemple, entre hommes et femmes. Donc c'est très difficile de mesurer à l'heure actuelle les progrès en matière de rénovation du discours religieux.
On va prendre quelques exemples. L'égalité entre les non-musulmans et les musulmans, elle est difficilement pensable à El-Azhar. Voici Ali Roma, c'est un ancien nazarite et il est ministre des biens religieux des religions.
Lorsque je suis avec un non-musulman, je recherche nos points communs. Il y a entre nous de grands points communs, dans le domaine de l'éthique par exemple, ou concernant nos objectifs pour construire une société. Il y a de grands points communs dans le domaine des résultats, dans les apports sociétaux. Pour cette raison, le non-musulman est apaisé en ma présence, parce que je recherche les points communs et non pas la confrontation. Donc, à El-Azhar, j'ai vraiment besoin de cette humanité.
Mahmoud Azhar, pardon de vous poser directement la question, mais est-ce que vous êtes, oui ou non, favorable à l'ouverture d'El-Azhar aux Coptes? Parce que c'est une faculté où il y a l'enseignement de technique, de la médecine, de la science de l'ingénieur, de l'agriculture. Au fond, c'est des formations qui devraient être accessibles aux Coptes.
Pour étudier à El-Azhar, il y a une condition fondamentale. Pour les musulmans, il faut savoir par cœur le Coran, pour tous les musulmans qui étudient à El-Azhar. Et cela, on ne peut pas demander aux Coptes. On ne peut pas leur imposer de savoir le Coran par cœur comme première condition. Ils ne le demandent pas de toute façon. Ça, c'est pas un vrai problème. Pour nous, nous sommes un peuple qui vit depuis 14 siècles ensemble, depuis l'arrivée de l'islam. On n'a jamais vécu une guerre religieuse comme en Europe. On vit ensemble et on veut revenir à nos principes. Il y a, c'est vrai, des problèmes qui ont touché la vie en Égypte, nous sommes conscients, mais nous travaillons ensemble, il y a la confiance totale réciproque entre nous et le Copte.
Bref, aux questions directes de Florian Delorme, ce conseiller très proche du cher El-Azhar répond, oui, il y a confiance, mais il n'y a pas égalité.
Alors, il n'y a pas égalité, il faut savoir que quand on est citoyen égyptien, on peut être que de trois confessions. Musulman, chrétien ou juif. On ne peut pas être un égyptien bouddhiste, on peut encore moins être un égyptien bahaï ou athée. Donc c'est un point important. Et l'égalité est sur certains éléments de droit, mais elle n'est pas sur d'autres éléments de droit. L'article 2 de la constitution égyptienne, qui n'a pas été remis en question, même s'il a été très discuté en 2012, puis en 2014, fait de la charia une des sources de la législation. Et donc, crée de l'inégalité, par définition ici, entre musulmans et non-musulmans. Mais il y a une recherche qui consiste à penser de nouvelles manières la citoyenneté. Et ça, c'est un des éléments du discours d'El-Azhar à l'heure actuelle, et notamment du cheikh Ahmed Tayeb, qui dit « Essayons non plus de se penser en termes de majorité légale et minorité légale, mais en termes de citoyenneté. » On reste cependant bloqué sur cette question de l'égalité en droit individuel.
Mais il y avait une tradition, et davantage d'une tradition, qui s'appelait la dhimmitude, un statut minoré pour ceux qui n'étaient pas musulmans. Le cher El-Azhar vient de déclarer que c'était anachronique.
Alors, en tout cas, d'employer le terme « dhimmi » oui, et de chercher à appliquer à l'heure actuelle ce qui a été appelé, par exemple, le pacte de Omar, qui a été attribué donc au calife Omar, il dit « ce n'est plus d'actualité ». C'est ça qui n'est plus d'actualité. Mais ça n'empêche pas que, dans le droit actuel, il n'y ait pas d'égalité entre musulmans et non-musulmans en Égypte. Donc il s'agit d'un aménagement de ce statut.
Alors ce qui n'est plus d'actualité, peut-être à la limite aboli par l'État, ne peut pas l'être par la tradition religieuse, parce que c'est inscrit ad vitam aeternam, et par exemple l'esclavage.
Alors, Homero Marangiou vient de sortir un petit livre qui est extrêmement nourri et riche de ce point de vue. Ça s'intitule « Rouvrir les portes de l'islam » et il met en évidence le fait qu'il y a, à l'heure actuelle, chez les savants sunnites, un blocage autour de cet héritage. Il parle de paradigme hégémonique qui apparaît intouchable. Et lui, en tant qu'acteur à l'intérieur du monde musulman, il dit « nous devons remettre en question ça, nous devons rompre ce paradigme hégémonique ». Et donc il y a vraiment un travail qui est fait, notamment de la part de savants libéraux ou d'intellectuels libéraux de confession musulmane pour briser ce plafond-là.
Les savants de tradition libérale sont généralement battus, mais la question c'est de savoir s'ils peuvent s'exprimer ou pas. Vous avez publié en français, chez l'Harmattan, des textes importants de Gamal al-Banna. Al-Banna, mais c'est pas la famille du fondateur des frères musulmans?
Oui, il s'agit du petit frère de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans.
Mais il leur dit des choses étranges.
Il avait beaucoup d'admiration pour son grand frère qui avait, disait-il, des talents d'organisateur exceptionnel. Mais du point de vue idéologique, il se démarquait largement des textes de son frère et disait que de toute façon, si son frère n'avait pas été assassiné, il aurait évolué sur un certain nombre de points.
Alors prenons des exemples.
Lui se présentait comme un intellectuel musulman libéral.
Prenons des exemples. Vous parliez des compagnons du prophète, de la transmission par eux, des dits et des faits du prophète. Gamal al-Banna, il explique, bah oui, mais enfin les compagnons, c'était pas tous des saints comme on les a sacralisés ensuite.
Exactement, et donc il a écrit un livre qui s'intitule « Le crime de la tribu des « Il nous a été rapporté », ces transmetteurs de la tradition », en disant « mais vous avez figé un ensemble de traditions qui sont pour partie contradictoires, et vous ne voulez pas reconnaître que ces faits et dits sont pour partie contradictoires, vous avez créé un corpus intouchable. Il faut le toucher par le corpus lui-même, le remettre en question par le corpus lui-même. » Et El-Azhar a été très mécontent et a essayé d'empêcher, de censurer un certain nombre d'écrits de Gamal al-Banna pour cette raison.
Parce qu'il n'a pas suffi de l'avis du prophète pour qu'il puisse dire tout ce qu'il aurait dit et fait tout ce qu'il aurait fait.
C'était dans des arguments de Gamal al-Banna, dont le père avait recueilli d'ailleurs les traditions attribuées répertoriées par Ibn Hanbal, l'un des quatre grands savants des écoles juridiques sunnites.
Le secrétaire du prophète transmet le Coran en langue arabe, puisque si bien la langue arabe a été créée dans le but exclusif de diffuser l'islam. Mais Gamal al-Banna dit oui, mais enfin ce secrétaire, il savait un peu d'araméen, il savait un peu d'hébreu, il savait un peu de syriaque.
Alors, Gamal al-Banna est un autodidacte, donc c'est pas un historien de la langue, etc. Mais il se posait un certain nombre de questions. Et en posant un certain nombre de questions, il provoque du doute. Et c'est ce qui a inquiété le magistère sunnite égyptien au moment où il a vécu, ce qui a fait qu'il a été un marginal. Mais aujourd'hui, des jeunes savants, y compris à El-Azhar, se disent, mais par le biais de la discipline historique, il doit être possible de revenir là-dessus, sur ce patrimoine-là.
L'arabe est-elle la langue du paradis? Mais il y a tellement de musulmans qui ne parlent pas arabe. L'université Al-Azhar, à la veille de la conférence Paix et religion qui va s'ouvrir vendredi au Caire. L'émission a été préparée par Céline Loriou et Franck Olivard. Elle recevait Dominique Avon avec à la réalisation Valérie Aestaraï et à la technique Éric Morin. Et au programme chez vous, Mathieu Bidard.
Oui Jean, on va parler de parité dans la tête au carré avec les explications scientifiques à la question de l'inégalité des genres.